Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VO Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de VO Afrique. Déjà plus de 3,7 millions de fans, continuez. On attend également vos appels en direct. Vous composez le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Fred Nerkayemit et Georges Léonard Sagno derrière la vitre pour prendre vos appels. Nos intervenants cette semaine, à mes côtés dans ce studio en direct de Washington, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également depuis le Bénin, Boïkon, Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VO Africa.
On va saluer également à Dakar, Amdine Sy. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de VO Afrique.
Et on va aller un peu plus au sud, on va aller à Kinshasa retrouver Thierry Kambundi, Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on commence bien évidemment, c'est l'information de ce lundi, c'est évidemment les suites des déclarations du président de la Confédération africaine Armat, la CAN 2019, on en parle, et ce soir, le Cameroun qui crie à la conspiration, la fédération camerounaise, la FECAFOOT, qui parle de changement unilatéral des règles du jeu dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'en souvient, cette Coupe d'Afrique des Nations, dès 2019, se jouera entre le mois de juin et juillet, mais surtout, elle passera de 16 à 24 équipes, ce qui change le cahier des charges. Et ce soir, dans un communiqué, le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko, explique que son instance a appris avec consternation les récentes déclarations du président de la Confédération africaine de football. À quoi fait-il allusion ? Eh bien, on va l'écouter tout de suite, puisqu'au cours d'une visite à Ouagadougou, le président Armat avait déclaré ce week-end que, je cite, « Même pour une CAN à 4, le Cameroun n'est pas prêt. Aucun site ne peut abriter la compétition actuellement au Cameroun. » On va écouter tout de suite le président de la Confédération africaine qui s'exprimait chez nos confrères de la radio-télévision Burkinabé.
Vous voyez, la décision prise, c'est de ne plus donner la responsabilité des visites d'inspection aux membres du comité exécutif ni à la commission d'organisation. Maintenant, c'est un cabinet d'audit de renom accepté par tout le monde qui assure cette visite d'inspection avec des experts en football. On verra. Vous avez entendu la déclaration des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu'ils sont prêts pour ça. Nous, pour nous, c'est tout simplement envoyer cette délégation pour l'inspection et prendre acte des rapports de ce match. Dommage que certains de vos collègues ne comprennent pas la réalité lorsqu'ils insistent sur cet aspect qui n'est même pas un point où on doit discuter. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charge qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons.
Voilà, des déclarations plus qu'offensives, évidemment, d'Armat, le président de la Confédération africaine de football. Alors, Yacouba Ouédraogo, vous avez lu pour VO Afrique ce communiqué de la FECAFOOT, finalement, que dit-il ?
Alors, Tombi Aroko, président de la FECAFOOT, se dit surpris que la mission d'inspection de la CAF arrive au Cameroun en août, alors que le rendez-vous officiel était déjà prévu en septembre, dans un communiqué transmis donc à VO Afrique, Nicolas vous le disait tout à l'heure. Toujours selon le texte, on serait, je le cite, on serait en droit de s'interroger sur l'opportunité même de cette visite d'inspection, dès lors que les résultats semblent déjà arrêtés au niveau le plus élevé de la CAF. À la CAF, bien sûr. La FECAFOOT se demande s'il faut prêter finalement une oreille attentive aux rumeurs selon lesquelles la CAF veut octroyer cette CAN 2019 à un autre pays.
Alors justement, c'est tout le débat ce soir et Tombi Aroko qui est en voyage justement en République démocratique du Congo. Il va être reçu par Constant Omari, le président de la fédération. On va retrouver évidemment Thierry Kambundi, Top Congo FM. Thierry, que vous inspire finalement cette sortie le Cameroun qui crie à la consternation, qui crie au complot. Est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits pour les Camerounais?
Écoutez, c'était prévisible, Nicolas. Ce débat, on l'a eu en partie il y a quelques jours, je pense la semaine dernière, tous à l'unanimité, tous les intervenants ont noté pratiquement le caractère prématuré de la mise en place, de la mise en œuvre de cette réforme pour le Cameroun, qui se préparait déjà en fonction du format habituel de la CAN, s'est vu imposer justement ce changement brusque, que ça allait avoir des conséquences sur la préparation de la CAN au Cameroun. Il aurait fallu que la CAF ne soit pas si dure justement, et ça sent très très mauvais pour la suite des événements. Je ne vois pas clairement comment ça va se terminer pour les Camerounais, pour la CAF. On souhaite bien évidemment que plus tard au mois de janvier que tout soit prêt, mais ça sera très 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 difficile pour que les uns et les autres tiennent le délai.
Mais Thierry, le président Ahmad, il dit quand même quelque chose de plus cinglant. Il dit quand même que même une CAN à 4, le Cameroun ne serait pas prêt. Donc il y a quand même deux théories qui expliqueraient finalement un changement de pays organisateur. Est-ce que, comme certains l'annoncent, notamment au Cameroun, il y aurait une volonté de revanche, hein? On sait évidemment les bisbilles entre Issa Hayatou et Ahmad, hein, avant l'élection du Malgache. Ou alors, tout simplement, il y a une réalité qui est une réalité des infrastructures et des stades qui fait que finalement, le Cameroun, même à 4 ou à 16, hein, finalement, ils ne seront pas prêts. C'était un peu ça, finalement, les deux thèses, hein?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que les termes sont assez durs, hein. S'ils reflètent réellement la réalité sur le terrain, c'est qu'effectivement, le Cameroun a des problèmes au niveau de la préparation de cette CAN. Je n'ai jamais entendu, dans un passé récent, au terme des missions d'inspection, des inspecteurs de la CAF, un rapport avec des termes aussi durs. Le Cameroun, c'est un pays qui a... c'est un grand pays de football qui, dans un passé récent, a accueilli un certain nombre de compétitions au niveau d'âge notamment, et dire aujourd'hui qu'il n'est pas capable d'organiser une CAN même à 4, c'est quand même assez dramatique pour une CAN prévue dans 2 ans. Et la Fédération camerounaise de football a eu raison de se plaindre dans cette communauté, car elle dispose encore d'une année et demie pour essayer d'être prête, et que je juge également personnellement que la réaction de la CAF est quand même assez dure vis-à-vis du Cameroun.
Et puis Yacouba Ouédraogo le rappelait avant l'émission, hein. Il y a une invitation qui a été lancée à Ahmad pour qu'il vienne au Cameroun le 20 août, je crois. On verra bien. Mais Thierry, par rapport à ce que vous disiez, le Cameroun l'a fait qu'à foutre, c'est ce qu'elle dit. Hein. Élisée Nkoupatine l'a fait qu'à foutre. Elle affirme avoir organisé avec un succès indéniable la Coupe d'Afrique des Nations féminines de 2016. Vous, quel est votre avis sur cette sortie ce soir, hein, finalement, ce tacle de la fait qu'à foutre au président Ahmad?
Normal, Nicolas, puisque Ahmad l'a déjà souligné du côté de Ouagadougou, même si on organisait la CAN avec 4 formations, et bien sûr, ce serait difficile pour le Cameroun. C'est vrai que le pays de Samuel Eto'o avait organisé la Afrique féminine. Et nous savons tous les conditions dans lesquelles cette compétition a été organisée. Je me rappelle encore de ce match éliminatoire où le Cameroun recevait l'Afrique du Sud. C'était du côté de Bafoussam, un terrain qui devrait normalement accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais les travaux n'ont pas réellement avancé. Maintenant, si Ahmad dit que le Cameroun n'est pas en mesure d'organiser la CAN à 4, en tout cas pour moi, les choses sont déjà faites. Maintenant, quitte au Cameroun de monter au président de la CAF que le Cameroun peut bien sûr organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle ces multiples demandes, surtout à l'État, d'aider fortement ce comité d'organisation pour pouvoir être à jour. Même, on a fait appel à des sociétés italiennes pour venir en aide surtout à l'organisation de cette compétition. Ça montre réellement que le Cameroun n'est pas encore prêt. Maintenant, Tondi Aroko est dans un communiqué de presse à 3 pages. Et Nicolas, il faut le dire, un communiqué de presse à 3 pages, ça veut dire qu'il y avait il s'est vraiment fâché, maintenant à lui de prouver réellement que le Cameroun peut organiser cette Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, alors merci beaucoup Élisée Nkoupatine. On va prendre un premier auditeur, on va partir en Côte d'Ivoire, on va retrouver Falikou. Falikou, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous nous avez dit sur Facebook, hein, le président de la CAF a pleinement raison, il ne faut pas organiser la Coupe d'Afrique sur des stades de rugby, allez-y.
Oui, effectivement. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a eu un match, je ne me rappelle pas un peu des équipes qui jouaient, mais il y a eu un match, la CAN passée au Tricor, comment on appelle ça, au Gabon.
Au Gabon,
moi,
hein.
Depuis ce match-là, je n'ai pas voulu regarder la CAN encore. Parce que vraiment, le match, vraiment, la pelouse même, vraiment, vraiment, vraiment. Alors que c'est l'image de l'Afrique qui va, hein, c'est l'image de toute l'Afrique. Moi, je pense que le président a pleinement raison. Si le Cameroun ne peut pas organiser la CAN, il faut leur dire ça ouvertement. En Côte d'Ivoire, ici, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises paroles, il n'y a pas de mauvaises pensées. Si vous voyez que ce n'est pas la fin du monde, si vous voyez que ne peut pas organiser, bon, ce n'est pas la peine de blaguer. Parce qu'il y a des infrastructures qui comptent l'hôtellerie, les routes et les pelouses. Parce que quand les équipes se déplacent comme ça, nous, les supporters, là, on n'a pas des résultats positifs. Maintenant, si les pelouses, là, ne leur permettent pas de s'exprimer. Bon, à quoi c'est de gaspiller de l'argent, puisque la fédération, comment dirais-je, dépense de l'argent, et même l'État même dépense de l'argent pour ces trucs. Et vous voyez, donc moi je pense qu'il faut donner ça aux pays qui ont des infrastructures un peu adaptées, et puis bon, la prochaine fois, ils peuvent passer à ces trucs.
Ben écoutez, merci beaucoup Falikou de nous avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire. Je crois que vous faisiez référence notamment à la pelouse de Oyem hein, au Gabon. Notamment, je crois que Thierry Kambounji était sur place pour ce match catastrophique. On va prendre un autre auditeur malien ce soir sur VOA Afrique. Bonsoir. Allô, est-ce que vous nous entendez Mamadou, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien. Et vous?
Oui, ça va. Alors, vous, finalement, hein, qu'est-ce que vous pensez? Décision logique de la CAF de peut-être retirer la CAN au Cameroun ou vengeance personnelle sur les Camerounais? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, j'en dirais que c'est une vengeance de la part des présidents Ahmad, puisque en réalité, là, même si nous regardons partout en Afrique, nous voyons qu'il y a des problèmes d'infrastructure. C'est pas seulement le Cameroun, mais il y a aussi même les pays les plus émergents, il y a des problèmes d'infrastructure. Donc, je pense bien qu'en deux mois, le Cameroun peut bel et bien réussir le temps et peut bel et bien organiser cette Coupe d'Afrique des Nations.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis le Mali. On va poser la question à Amedine Sy. Amedine, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a déjà commencé les éliminatoires pour cette CAN 2019. Il y a déjà eu une journée, évidemment, et là, on change les règles finalement. En avant, on avait 12 premiers de chaque poule et les 3 meilleurs deuxièmes, plus le Cameroun qualifié pour une CAN à 16. Aujourd'hui, on nous dit que dans ces 12 poules, les deux premiers seront qualifiés. Ça change la donne quand même.
Oui, tout à fait, Nicolas. Vous avez raison, on ne change pas quand même les règles du jeu en pleine compétition, c'est pas normal. Et je peux dire que Ahmad est en train de passer complètement à côté de la plaque. C'est vrai que moi, je fais partie des sportifs qui pensent que le fait de passer de 6 à 24 pays pour une compétition comme la CAF, c'est une très bonne chose. Mais le fait de passer de ça, je ne suis pas d'accord pour ça parce qu'on pouvait attendre quand même l'édition prochaine pour pouvoir quand même appliquer ce changement. D'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la déclaration d'Aman. Aman, il manque de respect non seulement au Cameroun, mais à tous les sportifs africains, puisque quand on dit que même à 4, le Cameroun n'est pas prêt pour organiser cette CAN, c'est insulter quand même l'intelligence des Africains, puisqu'on a vu le Cameroun organiser quand même la CAN féminine, qui était à 8 équipes. Et on se dit que la CAN de la 32e édition, c'est dans 10 mois, puisque ce sera du 7 juin au 7 juillet. C'est vrai qu'on a changé les dons, mais il faut quand même attendre, il y a 10 mois, il faut attendre peut-être à 5 mois de l'organisation pour pouvoir inspecter quand même les travaux et voir si le Cameroun peut organiser ou pas. Je pense qu'il y a une passion de revanche dans cette déclaration du président Ahmad Aman, parce que tout simplement, l'ancien président de la CAF, qui avait retiré quand même l'organisation des U17. C'est Antoine Marion qui devait organiser ça, mais lorsqu'il a posé sa candidature, Tshisekedi avait refusé, avait carrément changé les données pour donner cette organisation au Gabon. Je pense que le président de la CAF ne doit pas faire un règlement de compte, puisque c'est la personne morale du sport africain. Il doit se comporter autrement que ce comportement qu'il a. Présentement, c'est un passage de revanche pour moi, Nicolas Pino.
Allez, on part en Guinée. Cette fois-ci, on va retrouver Camara Digno, Fode Momo, peut-être des racines brésiliennes. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous avez aussi vivement réagi, hein, finalement, à ces déclarations du président Ahmad sur la CAN 2019, finalement. Est-ce que, selon vous, vous êtes un peu dur, hein? Est-ce que, selon vous, le système Ayatou, finalement, était meilleur? Est-ce que les choses ont vraiment changé à la tête du foot africain?
Vous savez, on a beaucoup suscité beaucoup d'espoir depuis que l'arrivée de M. Ahmad. Mais on pense bien qu'il a passé à côté cette fois-ci. Parce qu'il pense seulement en vengeance.
Oui.
Il veut juste s'attaquer à tous les camps qui ont été attribués dans les trois compétitions qui viennent jusqu'à 2023 en Guinée. Donc, s'ils passent comme ça, ils disent qu'ils ne sont pas prêts, parce que le Cameroun a un cahier de charge. Si le cahier de charge, à chaque année, on visite ce cahier de charge, est-ce que ça colle ce qu'ils sont en train de faire? Si ça se colle, on ne doit pas réagir comme ça. Et s'ils veulent maintenant, ils veulent s'attaquer à ce projet, il faut qu'ils reviennent, ils expliquent maintenant avec tous les autres pour qu'on puisse savoir réellement de quoi ils veulent retirer la CAN. Mais s'ils veulent s'attaquer parce que le mouvement de Isayatou, Isayatou a retiré la CAN au maire de Madagascar, je ne comprends pas. Ou bien c'est avec la COSAFA qui veut s'attaquer maintenant au système ancien, je ne sais pas ce qu'il veut faire maintenant.
Oui, alors merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la Guinée. La visite aussi à Ouagadougou, Yacouba Ouédraogo, c'était aussi un peu sur fond de règlement de compte au Burkina. Hein.
Tout à fait, Nicolas Pino. On se rappelle encore d'une sortie du président d'un club burkinabé, le RCK, le Raï Club du Kadiogo, champion du Burkina en titre. Et le président du RCK qui a démissionné récemment, avançant qu'il est victime d'un règlement de compte personnel de la part du président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré. On sait que Amadou s'était annoncé comme challenger de Sita lors des élections passées récemment, mais il se trouvait que l'une des pièces constitutives du dossier était expirée, notamment sa carte nationale d'identité burkinabé. Et donc, depuis lors, il estime qu'il fait l'objet d'acharnement, son club notamment fait l'objet d'acharnement à répétition de la part de Sita Sangaré et de son équipe. Et donc, il a décidé de rendre le tablier, dit-il, pour protéger sa personne et protéger son entourage. Il a dit, j'ai décidé avant que le Raï Club du Kadiogo ne soit sacré champion du Burkina. Et on se rappelle, il a fait également cas de l'ancien ministre des Sports du Burkina, Yacouba Ouédraogo, qui a également aussi subi récemment une sanction de la part de la Fédération burkinabé de football pour tentative de fraude lors des matchs donnés. Donc, ils estiment qu'ils sont tous victimes du règlement de compte personnel.
Merci beaucoup, Yacouba Ouédraogo. Vous restez à l'antenne, à l'écoute, hein, sur VOA Afrique. Georges Léonard Sagnou, il danse la samba parce qu'on va parler évidemment de Brésil, on va parler de Neymar, ça y est c'est fait la semaine dernière, on s'en doutait mais c'est fait. Neymar Junior, le plus gros transfert de l'histoire, 222 millions d'euros et le Barça qui continue à s'accrocher. Amdine Sy, évidemment on sait que vous êtes Barcelonais de cœur et le président du Barça qui dit aujourd'hui aucun joueur n'est au-dessus du Barça pour parler de Neymar finalement. Est-ce que le club catalan s'entête pas un peu trop sur ce transfert de Neymar?
Si, si, le club catalan s'empêche à vraiment à mettre du sable au niveau du transfert de Neymar. On a entendu également le président de la Ligue espagnole aussi dire qu'ils ne vont pas quand même libérer Neymar. Je pense que ça, ce n'est pas du tout normal parce que Neymar n'a pas été formé par le FC Barcelone. Neymar a été acheté par le FC Barcelone, il y a une clause libératoire et les paniers l'ont payé. Maintenant, ils doivent laisser les mains et venir sur les couleurs du transfert. Mais Nicolas, je veux dire que le transfert de Neymar est plus qu'une affaire sportive ou financière, car il est également politique, hein, car si on regarde le Qatar qui est propriétaire du Paris Saint-Germain, profite quand même du transfert de Neymar pour redorer son blason, parce que, comme vous le savez, le Qatar.
Oui, mais alors justement, Amédine.
Le Qatar est tenu par l'histoire qui peut être quand même du terrible. Et pour tout cela, ils sont en train quand même de redorer le blason avec le transfert de Neymar.
Oui. Alors, Amédine, justement, on va prendre Tierno Diallo qui nous appelle depuis la Guinée pour réagir à ce transfert. Bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs.
Alors à Conakry, comment on voit finalement cet acharnement du Barça qui a bloqué une prime de Neymar, qui n'a pas voulu évidemment pendant longtemps le laisser partir? Comment voyez les choses, vous?
Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre l'attitude des dirigeants du Football Club de Barcelone. Moi, je me demande pour quel intérêt que le dirigeant du Barça va bloquer ce transfert historique. Si vous vous souvenez très bien, l'arrivée du Neymar au Barça, ça a été tout à fait, ça n'a pas été du tout transparent, à mon avis, parce que il y avait eu du remous après de sa venue du Brésil au Barça. Maintenant aussi, vu son départ, ils sont là à créer des polémiques là où il n'y en a pas. Le joueur, vraiment, il a voulu partir, on devrait le laisser partir tranquillement, parce que il n'y a aucun intérêt, à mon avis. Mais le dirigeant sportif Barcelone vise quelque chose qu'elle ne redoute beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec elle étant un supporter du Barça.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés depuis la Guinée. Il nous reste malheureusement que 5 minutes hein, pour ce Sporama. On va parler à présent des mondiaux d'athlétisme à Londres ce lundi avant les dernières épreuves. L'Afrique est toujours sur le podium des médailles. L'Éthiopie deuxième avec une médaille d'or. Le Kenya troisième avec une médaille d'or et une en argent. Les Américains premiers avec 8 médailles. Et notamment, hein, on a suivi ce lundi les séries du 200 mètres. Et tout à l'heure, la finale du 1500 mètres hein, pour qui pourra battre Zebedi Baba, l'éthiopienne, hein, notamment la sud-africaine Caster Semenya sera de la partie. Après, évidemment, deux jours de compétition, Yacouba Ouédraogo, que faut-il retenir pour l'Afrique?
Alors Nicolas, on note tout de suite hein, la belle revanche pour Marie-Josée Talou, championne d'Afrique, a décroché la médaille d'argent au 100 mètres derrière l'américaine Tori Bowie. Elle avait fini au pied du podium à Rio lors des 100 mètres et des 200 mètres.
Alors justement, on a un auditeur qui nous appelle de Côte d'Ivoire, Monsieur Nguessan à l'appel, bonsoir. Est-ce que Bernard nous entend? Alors, Georges Léonard Sagnot va me faire signe. Est-ce qu'on entend Bernard Nguessan qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire? Bonsoir. Voilà, visiblement.
À propos des mondiaux d'athlétisme.
Oui, allez-y, on vous écoute, Bernard.
Oui, à propos des mondiaux d'athlétisme. Bon, je félicite d'abord les athlètes africains.
Oui, allez-y.
La détermination. Aussi, je les encourage de se lancer plus, de se donner plus que
Alors, Bernard, merci de nous avoir appelé, mais la ligne est très très difficile. On va continuer avec vous parce qu'il y a eu une autre déception pour les Ivoiriens.
Tout à fait, Nicolas. Ben Youssef Meïté n'a pas pu dépasser les demi-finales des 100 mètres. On note aussi hein, que le Kenyan Geoffrey Korir Kiru a enlevé l'or au marathon. L'Éthiopienne Almaz Ayana a été sacrée sur 10 000 mètres en 30 minutes 16 secondes. C'est la meilleure performance mondiale de la saison. Elle a dévancé de 45 secondes sa compatriote Turinesh Dibaba, 31 minutes 2 secondes. Au 400 mètres, le polyvalent sud-africain Wyde Van Niekerk ambitionne d'être le premier homme à casser la barrière des 43 secondes du mythique Michael Johnson. À 25 ans, champion olympique du 400 mètres l'an passé à Rio, Van tentera de conserver son titre mondial de 2015 décroché à Pékin. La finale se court demain, Nicolas.
Merci beaucoup. Alors, avec vous, Thierry Kambundji, à Kinshasa, évidemment, on avait hein, un engagé congolais sur 200 mètres, hein, Kabongo Moulumba. Hein.
Oui, il était engagé, pas très connu ici au pays, mais pas passé par des qualifications classiques. Il a été invité, vous le savez, la Fédération Congolaise d'Athlétisme, même aux Jeux Olympiques de Rio, que ce soit à Pékin ou encore à Londres, avait bénéficié de quelques invitations comme ça. C'est comme cela que ça s'organise au niveau de l'I2AF. Malheureusement, il n'a pas brillé. Il y a beaucoup de travail à faire ici, au niveau local, au niveau national, en matière d'athlétisme, pour espérer briller dans pareille compétition plutôt réservée aux grands. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de Gatlin et de Usain Bolt. Mais bon, c'était vraiment formidable ce qui s'est passé. Voilà.
Alors justement, attendez Thierry, petit événement, nouvel appel cette fois-ci depuis Abidjan. On me fait signe qu'un auditeur chinois, Changchin, nous appelle. Un auditeur chinois, ce sera une première dans l'histoire de Sporama. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous nous appelez notamment pour parler du Barça, Changchin. Allez-y.
Oui, en effet, je voulais parler, comme vous avez suggéré sur les réseaux sociaux, à propos du contrat de Neymar. Comme je vous ai intervenu, je dis aujourd'hui, le football international suit la loi qui est l'argent. Aujourd'hui, Neymar a besoin de temps de jeu, mais quand tu regardes le temps de jeu, Gareth Bale à Real Madrid comparé à celui de Neymar bien plus à l'aise. Mais aujourd'hui, le football suit la loi a une nouvelle loi qui est l'argent et Neymar a fait un choix plutôt lucratif que sportif. Parce que je voulais critiquer et je.
Oui, mais écoute, ouais, merci beaucoup de nous avoir appelé. Changchin, premier auditeur chinois hein, sur Sporama. C'est une première le 7 août 2017. On retiendra Georges Léonard Sagnot. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier évidemment à Kinshasa Thierry Kambundji, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va remercier à Boïcon au Bénin, Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Un grand coucou également à Dakar, Amdine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sportrama.
Et dans ce studio à mes côtés, Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
Merci Nicolas, merci à tous.
Allez, on va remercier également Fred Nerkayemi, Georges Léonard Sagno à la mise en onde, Nicolas Pineau à la présentation. On va vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.